Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller et c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle d'un sujet, comme c'est intéressant, comme c'est original aussi d'en parler car on n'en parle pas beaucoup. On va parler du syndrome de Hikikomori. Voilà, déjà je l'ai bien dit, du premier coup, il n'y a pas eu de montage, donc je suis content. Le syndrome de Hikikomori, qu'est-ce que c'est? Vous allez tout comprendre avec tout d'abord un témoignage, puis nous serons avec une psy. Les deux s'appellent Sophie, Sophie Carquin puis Sophie Brown, pour décrypter ce syndrome. Vous allez voir, c'est fascinant. C'est parti.
Hikikomori, c'est le nom de ce syndrome apparu au Japon au début des années 90 et qui désigne des personnes incapables de sortir de chez elles, incapables d'entreprendre des activités sociales. C'est un phénomène qui touche particulièrement les adolescents, mais pas uniquement au Japon. Bonjour Sophie.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes la maman de deux enfants, vous avez un garçon de 24 ans et une fille de 20 ans.
Oui.
C'est votre fils qui, à l'adolescence, s'est progressivement retiré du monde pour vivre reclus dans sa chambre. Vous avez écrit un roman,
oui,
juste à côté de toi, paru aux éditions Charleston, inspiré de votre histoire. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet qui est quand même assez peu connu en France.
De plus en plus.
Oui,
oui, de plus
et
en plus.
On va donc en parler ce matin pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire comment était votre enfant quand il était petit garçon?
Alors, c'était un petit garçon gay, mais assez introverti, assez replié sur lui-même. Et surtout, quand est arrivée la fin de l'école élémentaire, aux alentours... Moi, j'ai noté une bascule vers l'âge de 9 ans à peu près. 8-9 ans. Là, il a commencé à être vraiment triste à l'école, surtout. Je me rappelle, à la maison, il n'était pas très, très bavard, mais c'est surtout à l'école où ça s'est remarqué. Et je me rappelle le jour où j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse en CM2, qui a commencé à me parler de toutes les qualités de mon fils en disant « il est excellent ». J'écris une équation de maths, de calcul au tableau, je me retourne, il y en a un qui n'écrit pas parce qu'il a tout dans la tête, c'est lui. Donc elle commence à me vanter, entre guillemets, toutes ses qualités. Donc je buvais du petit lait et elle me dit « mais il a l'air très malheureux à l'école, il faut que vous sachiez, il ne bouge pas, il pourrait entrer au musée Grévin ». Quand elle m'a dit « il ne bouge pas », je me suis dit « bon, mais il est juste sage ». Mais quand elle m'a dit « il pourrait entrer au musée Grévin », là, effectivement, c'est quand même très inquiétant. Je suis rentrée à la maison, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et on ne savait pas trop ce qui se passait, sauf que peut-être je n'ai pas pris la mesure de la chose. Cela dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? L'école, c'est quand même obligatoire. Les choses se sont déroulées comme ça. Ma mère a été une ancienne institutrice et je me rappelle qu'elle s'inquiétait déjà de ça. Elle disait « ça m'inquiète quand même qu'il n'aime pas l'école », tout en étant très bon.
Que ça s'est amélioré finalement en grandissant quand il a été au collège par exemple?
Ça a empiré, au sens où il a toujours été très bon jusqu'à à peu près, c'est vraiment un truc de garçon, hein. La crise d'adolescence c'est plutôt vers les quatrièmes, jusqu'à la quatrième ses résultats ont été toujours très bons sans jamais travailler. Et en s'ennuyant, je pense toujours beaucoup à l'école. Et puis au moment où il faut quand même se mettre à fournir des efforts, là, à partir de la quatrième, là, ça a commencé vraiment à dégénérer. Crise d'adolescence, début de sèche, entre guillemets, heure séchée.
Il n'allait pas à l'école?
Non, il n'allait pas à l'école. On ne s'en rendait pas forcément compte parce qu'au début, il sortait, il allait ailleurs. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais en tout cas... Et c'est au moment où on a commencé à recevoir, vous savez, les listes d'heures séchées.
Oui.
Qui viennent, et quand on voyait arriver ces enveloppes qui venaient du collège,
les jours d'absence.
On ouvrait les enveloppes et puis on voyait les heures, et puis après c'était les demi-journées d'absence, et puis ça a été progressif comme ça.
Et alors comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il n'allait pas à l'école?
On lui en parle à ce moment-là, son père et moi, on essaie de voir ce qui se passe. Il dit, il marmonne, beaucoup de mal à communiquer de toute façon avec lui à cette époque-là. On essaie de sanctionner, tu sortiras pas, etc. Mais au bout d'un moment, c'est lui qui sortait plus, d'ailleurs.
Il sortait plus de sa chambre.
Il sortait plus de sa chambre pour y aller. Donc ça, c'est aux alentours de la fin de la troisième, début de la seconde. Plutôt en seconde, d'ailleurs, parce que d'ailleurs, la seconde, c'est vraiment un cap. Les ados ont 15 ans. Et là, le matin, on s'arrachait les cheveux, c'est-à-dire que le réveil sonne.
Vous entendez donc son réveil.
On entend son réveil, on voit que rien ne se passe, on frappe à sa porte. Soit il ne dit rien, soit il se met à grogner en disant « non, non ». C'était beaucoup « non » derrière la porte. Je l'écris dans mon roman, parce que le personnage de mon fils m'a inspiré, ce jeune homme, il calait un meuble derrière sa porte pour qu'on n'ait pas à entrer. Alors les jours où il calait pas un meuble, on frappait évidemment, on entrait. Un jour, il y en a même un qui l'a saisi par les épaules et l'autre par les pieds pour le sortir de sa chambre.
Votre mari et vous ?
Oui, mon mari. Oui, quand je dis l'un et l'autre, c'est mon mari et moi. Et puis après, il s'enferme dans la salle de bain. Non, il ne veut vraiment pas aller à l'école. Donc c'est aussi ce qu'on peut appeler la phobie scolaire probablement, mais ça s'accompagne de... Enfin, il y a des tas de symptômes comme ça, mais au bout d'un moment, il ne veut plus sortir de sa chambre, effectivement.
Est-ce que vous savez ce qu'il faisait de ses journées quand il n'allait pas à l'école ?
Oui, il allait s'enfermer dans une salle de jeux vidéo. Mais ça, c'était souvent... En fait, les journées, il y a eu un moment donné où son rythme a été inversé, ce qui est assez typique, d'ailleurs, des adolescents. Le jour, il dormait, et la nuit, il allait dans une salle de jeux vidéo ouverte non-stop, 24 heures sur 24. Et là, j'en ai énormément voulu. Je continue à en vouloir à ces salles de jeux. Je ne sais pas si maintenant, elles existent toujours, si elles sont toujours ouvertes 24 heures sur 24. Mais comment est-ce qu'on peut... laisser venir des ados, des très jeunes ados, parfois, je vois, il y en a qui ont 12-13 ans, sans demander leur carte d'identité, sans qu'il y ait une sorte de filtre à l'entrée. Moi, j'étais furieuse contre ces salles. Donc, bref, mon fils y allait la nuit, parfois, et la journée, il rentrait dormir à la maison. Donc, le rythme était complètement inversé.
Il n'était pas dans la vie, finalement. On a l'impression, en vous écoutant, que le réel ne l'intéressait pas, l'école ne l'intéressait pas. Est-ce qu'il avait quand même des copains ?
Oui, il avait 2-3 copains à peu près du même profil, c'est-à-dire des gamins assez intelligents et qui réussissent bien à l'école, mais pas très sociables. Enfin, oui. Et d'ailleurs, quand on a commencé à voir des psys pour ça, je me rappelle très bien que la question qui revenait souvent, c'est « Mais est-ce qu'il a au moins un copain ?» Et puis, une psy m'avait dit « Parce que s'il n'a pas un seul copain, il faut quand même s'interroger sur... un éventuel début de schizophrénie ou je ne sais quoi. Et en réalité, ce n'était pas du tout ça. Juste très atypique.
Oui. Donc, il avait quelques copains
qui lui ressemblaient.
Est-ce qu'à la maison, c'était un enfant qui participait à la vie de la famille ?
Alors là, de moins en moins. On l'encourageait, évidemment, à participer. Les repas, c'était évidemment toujours en famille. Pour nous, c'est toujours en famille. Mais lui, il y allait de moins en moins. Je frappais aussi à sa porte. C'est l'heure de manger. Non, je ne veux pas venir. Enfin, voilà, c'était de moins en moins. Puis, à un moment donné, où j'ai commencé à laisser son assiette au frigo, parce qu'il me disait, je viendrai plus tard, j'ai pas faim. Et puis, il en est arrivé au point où on ne prenait plus nos repas ensemble. Donc,
vous
plus vraiment de vie de famille.
Pour dîner.
Voilà, oui, on l'attendait plus, on l'attendait, puis au bout d'un moment, on ne l'attendait plus, et voilà. Donc,
On imagine à quel point vous avez dû vous sentir impuissante. Vous avez cherché de l'aide, du coup, à l'extérieur pour le sortir de
cet enfermement. Oui, bien sûr, on est passé partout. La thérapie familiale, qui n'a absolument rien donné. Un psy spécialiste de jeux vidéo qui... Alors, c'est des gamins qui sont très malins, donc qui arrivent très bien à louvoyer. Et mon fils a joué à celui qui n'était pas du tout accro aux jeux. Alors, je tiens à dire que les jeux ne sont pas la cause de l'enfermement, c'est le refuge qu'il trouve. Donc, ce n'est pas au départ une addiction aux jeux. N'empêche qu'après, ils passent leur vie... c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi. Enfin, ils évitent de sortir. L'évitement les fait s'enfermer encore plus. Et puis, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'institue. Et quand on voit... Moi, j'écris des livres, j'écris des articles. Je suis dans l'appartement non-stop, sauf quand j'ai des rendez-vous. Je ne suis pas enfermée parce que je travaille. Bon, bref. Oui. Mais le fait de savoir qu'il y a un jeune enfermé dans sa chambre, alors on est à l'affût.
Oui, comme... alors en fait, il est enfermé dans sa chambre parce que finalement, ses résultats scolaires, ils finissent par chuter.
Oui.
Il doit redoubler sa seconde. Vous décidez de le mettre à l'internat.
Oui,
mais là,
ça,
évidemment, ça ne se passe pas bien. Et donc, vous le déscolarisez.
Oui.
Là, vous en arrivez à vivre... Vous travaillez à la maison, lui,
enfin, je le déscolarise, oui, en accord avec le psy qui s'occupait de lui. Et il avait commencé à faire une fugue de l'internat. Et ça, les fugues, c'est quand même un très mauvais signe.
Oui.
Les psys le savent bien. Donc, le psy m'a dit, bon, il faut qu'il arrête l'internat. Donc, effectivement, là, à ce moment-là, On a essayé de trouver un moyen de le faire travailler, même. Oui. D'autant plus que je ne lui donnais, là c'est un vrai choix de parent, je ne lui donnais plus un centime d'euro. Et ça, ça fait un peu mal au cœur quand vous avez votre fils qui vient vous voir en disant « Tu peux me donner 5 euros, je voudrais prendre un café avec des, oui. avec des potes. » Enfin, bon, le peu qu'il puisse sortir de la maison. Et là, je lui dis « Bah non, tu n'auras même pas un euro. » En fait, j'avais...
Mais vous avez dû prendre vraiment des décisions.
J'ai dû prendre des décisions. Ça, c'est une vraie décision parce qu'on se dit « Est-ce qu'il ne va pas essayer de dealer ou de trouver un autre moyen de gagner de l'argent ?» Mais si je lui donne de l'argent, bah, il peut rester hikikomori jusqu'à 40 ans. Hein. Au Japon, il y en a qui ont 50 ans maintenant, les hikikomori. Alors... Donc, voilà. Donc, je ne lui donnais plus d'argent. Et à un moment donné, on lui a trouvé un stage. Et il a dit, bon, c'est loin de la maison. Je n'ai pas du tout envie de prendre le, j'ai pas envie de prendre le RER pour aller faire ce stage. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, c'est payé au moins. Et c'est là qu'il m'a dit, mais je n'ai pas besoin d'argent, je gagne de l'argent. Il avait réussi.
Voilà. Vous découvrez.
Je découvre.
En voilà. fait, votre fils...
Commence à faire des tournois de jeux vidéo. Il a été repéré. Comme tout ce qu'il n'a pas fait, les très bons résultats qu'il n'a pas eu à l'école, il les a eus dans le cadre d'un jeu vidéo. Il a été repéré par une équipe qu'il a enrôlé et il a commencé à participer à des tournois de jeux. C'est ce qu'on appelle l'e-sport. Et oui. C'est une vraie discipline, c'est un vrai métier. Et donc là, je découvre avec bonheur, j'ose le dire, moi qui avais essayé de le retirer des jeux de la salle de jeu, quand il m'a dit, je fais des tournois, etc., le fait qu'il gagne de l'argent avec ses tournois, je me suis dit, bon, il peut en faire quelque chose. C'est déjà un début de métier, donc je lui ai dit, mais c'est formidable.
Oui, finalement, c'est ce qui l'a sauvé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment il va aujourd'hui ?
Il va bien, il continue toujours à faire ses tournois, à travailler dans cette équipe de jeux vidéo. Notre communication n'est pas très, très fluide. Je lui envoie un texto, il peut répondre 3-4 jours après qu'il va bien. Donc, entre-temps, j'ai oublié la question que je lui ai posée. Mais c'est quelqu'un qui ne parlera jamais tellement beaucoup, qui va directement à l'essentiel, il ne va pas m'appeler pour me dire qu'il va bien.
Voilà. Mais le lien est quand même là.
Oui, le lien est là. On part en vacances ensemble 3-4 jours l'été. Et maintenant, c'est devenu un gamer. Voilà.
Sophie Braun.
Bonjour.
Merci d'être avec nous encore ce matin, parce qu'on le sait, vous êtes déjà venue. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Vous êtes l'auteur, entre autres, du livre « La tentation du repli » aux éditions Mot-Conduit. Dans le témoignage de Sophie, on entend l'impuissance et l'incompréhension des parents face à ce repli, bien évidemment. Comment un jeune, ça, on a du mal à le comprendre, comment un jeune arrive à s'enfermer littéralement dans sa chambre ?
C'est vraiment difficile à comprendre. Alors moi, j'ai commencé à écrire ce livre justement sur le syndrome hikikomori, mais à la fois le syndrome lourd, c'est-à-dire les jeunes qui s'enferment, mais aussi tous ceux qui se replient sur eux aujourd'hui, il y a 6 ans. Donc c'était bien avant le Covid. Hein. Et je voyais ce phénomène s'amplifier bien avant le Covid. Alors évidemment, le Covid a décuplé ça. Mais c'était déjà avant. Je trouve que Sophie Carquin a dit plein de choses passionnantes. Une des choses, et c'est l'impuissance dont vous parlez. Oui. Je pense que l'impuissance que ça fait vivre aux parents, c'est l'impuissance que ressent le jeune. Il n'a plus de puissance sur le monde. Je pense qu'à un moment donné, ils sont tellement dévastés par l'impuissance que la seule possibilité, ils n'ont plus les possibilités de se révolter, ils sont dans une forme de révolte passive. On ne peut plus, on n'y arrive plus.
Okay, on ne fait pas.
Alors on ne fait pas, on ne fait plus. Et du coup, ça fait vivre autour cette impuissance qu'eux, ils ressentent très très fortement à l'intérieur. Et le mot d'impuissance est très important aujourd'hui parce que cette impuissance, elle donne une mauvaise image de soi. Plus ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, plus ils se sentent impuissants, moins ils font de choses. Et ce n'est pas individuel parce qu'on le voit, les hikikomori au Japon, ça a démarré il y a 30 ans, il y en avait 1, 10, 50. Aujourd'hui, il y en a 700 000, entre 700 000 et 1 million. En France, on évalue... Alors, on ne sait pas très bien combien il y en a en France, hein, mais... Ça augmente de plus en plus. Et on ne sait pas très bien parce qu'on met des mots différents. Hein, on parle de phobie scolaire, on parle, de, pour les adultes, de burn-out.
De dépression aussi.
De dépression, bien sûr. Mais en fait, tout ça, pour moi, c'est le même phénomène de gens qui n'arrivent plus à supporter la vie, en fait, et qui se réfugient dans un petit endroit pour attendre, peut-être, que quelque chose puisse arriver.
Dans la souffrance.
C'est une souffrance horrible. C'est une souffrance horrible pour eux, c'est une souffrance horrible pour les parents. Hein. Sophie Carquin l'a bien dit. Il y a un sentiment d'impuissance. Moi, je me souviens de parents qui me disent, mais on peut pas, justement, on ne peut pas les prendre de force. Oui, et puis, de toute façon, ça ne marche pas. Parce que eux-mêmes, ils sont impuissants par rapport à eux-mêmes. C'est ça qui est vraiment très caractéristique. Ce ne sont pas des enfants qui disent « je ne veux pas aller à l'école ». Ce sont des enfants qui disent « je voudrais aller à l'école ».
Je ne peux pas.
Je ne peux pas.
On a reçu une question d'une maman, justement, en vidéo, une maman qui est un enfant qui est comme ça, regardez.
Moi-même, parent d'un jeune en reclus social, j'ai dû apprendre à la plupart des praticiens rencontrés ce qu'était le syndrome Hikikomori, après m'être longuement renseignée. Pourquoi cela? Pourquoi tant de retard?
Alors Christine nous demande vraiment pourquoi on n'arrive pas à savoir ce que c'est, pourquoi en France on a un retard comme ça sur ce syndrome.
Alors d'abord parce que je pense qu'il a démarré plus tard qu'au Japon.
Oui, il y a un décalage.
Il y a un décalage de temps, sûrement parce que la pression sociale au Japon est aussi beaucoup plus forte et ils sont pris dans des injonctions contradictoires encore plus fortes qu'en France. Oui. Donc nous c'est en train d'arriver, c'est en train de se développer je crois. Et c'est pour ça que, pour l'instant, tout le monde est un peu démuni et on ne sait pas très bien. D'autant plus que c'est, pour moi, un phénomène social, pas tellement un phénomène individuel. On le voit dans le témoignage de Sophie Carquin, c'est souvent des familles dans lesquelles les parents ils sont très présents, en fait. Ils sont là, ils s'interrogent, ils se demandent. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il se passe effectivement que la pression sociale est trop forte pour les jeunes, les angoisses. Le niveau d'angoisse dans lequel on les éduque et on les élève est horrible aujourd'hui. Voilà, donc, et puis, on est en train un peu de perdre les enfants. Je crois qu'on ne les élève pas comme des enfants. On ne les laisse pas s'amuser, on ne les laisse pas jouer. Très, très tôt, quand même. Parce que les parents sont angoissés aussi. Hein, ils ont peur.
Oui, une exigence donc, sociale.
Voilà, on voudrait les armer, on veut qu'ils aient du boulot, on veut qu'ils trouvent du travail, on veut qu'ils fassent les meilleures études. Et en fait, on fait l'inverse. Vraiment, on leur enlève de la force et on leur enlève de la structure psychique.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, on n'a pas de mots. On dit hikikomori, en Italie, c'est les retirer, c'est
ouais,
ça
ouais,
les retirer, ça parle, je trouve, ouais, plus qu'hikikomori, où on ne voit pas tout de suite. L'idée, Élodie vous demande, que faut-il faire et ne pas faire quand un jeune commence à s'enfermer dans sa chambre?
Alors,
c'est la tentation, c'est de le forcer, de dire, allez viens, on va se balader dehors. Quoi.
Absolument, et ça, ça ne marche pas. Évidemment, parce que sinon, il ne se retirerait pas dans sa chambre. Alors, moi, je crois qu'il y a des choses à faire avant, et puis il y a des choses à faire une fois qu'il a commencé à se retirer. Les choses à faire avant, c'est vraiment de les laisser jouer et de lâcher un petit peu, si on le peut, la pression sociale. L'autre chose à faire avant, c'est soi-même de sortir un peu sa tête de son téléphone, des réseaux sociaux, pour recommencer à jouer avec les enfants. Les laisser se jouer dans la boue, les laisser s'amuser un peu.
Faire du sport, faire du vélo,
voilà.
Quand il pleut, c'est pas grave, on va dehors.
Exactement. Retrouver leur corps, retrouver quelque chose, des sensations. Parce qu'en fait, un jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans, normalement, il a une énergie vitale qui fait qu'il doit être dehors et il a envie de jouer. Il a envie de rencontrer des filles ou des garçons, il a envie de s'amuser. C'est complètement contraire à la nature de rester enfermé dans sa chambre à 17 ans. Donc, ça veut dire que déjà, avant, il faut les laisser jouer, les laisser s'amuser et lâcher un peu la pression des études aussi. Après, une fois qu'ils se sentiraient, il faut faire attention aussi aux signes sur l'estime de soi. Quand les enfants commencent assez tôt, par exemple, à ne pas pouvoir jouer à des jeux parce qu'ils ne supportent pas de perdre, là, il faut commencer à leur expliquer, peut-être aller voir un psy, pourquoi pas, que ce n'est pas si grave que ça, que les échecs, ça fait partie de la vie. Parce que c'est ça aussi, c'est des enfants qui n'arrivent pas à se confronter à l'échec.
Anthony vous demande comment faire la différence entre un adolescent paresseux et un hikikomori.
Hikikomori. Alors, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait des adolescents paresseux. Je crois que à l'adolescence, je crois qu'à l'adolescence, on a besoin d'un temps pour maturer les choses, et que c'est pas parce qu'on est allongé sur un canapé à regarder des séries Netflix qu'on est forcément paresseux. C'est peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la motivation qui donne envie de faire des choses dans la vie, et qu'on est en train de la chercher. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que les adolescents restent sur un canapé toute la journée à ne rien faire. Il faut évidemment essayer de les inciter à faire des choses. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut leur mettre une étiquette de paresseux qui peut, après, durer toute la vie. Moi, je reçois des ados, ils arrivent, ils me disent « je suis paresseux ». Et alors là, il y a quelque chose qui les enferme quand même. Hein. Alors que si on leur dit ben, « c'est une phase de transition. Tu n'as peut-être pas encore trouvé ce que tu veux faire et on va chercher ensemble. C'est tout à fait différent. On ouvre une porte. Et je crois qu'il faut toujours ouvrir des portes au lieu d'enfermer les gens dans des étiquettes. Voilà. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Après, un ado qui reste sur son canapé, normalement, quand son téléphone sonne et que c'est un copain ou une copine, il se lève en bondissant, il rentre dans sa chambre, il va lui téléphoner. Ou il part la retrouver. Un hikikomori, son téléphone sonne, il ne répond pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un repli social. Il y a quelque chose de leur corps qui fait qu'ils ne peuvent plus être en relation avec les autres.
Ce n'est pas tellement leur relation avec nous, les parents, c'est plutôt ce qui indique, c'est vraiment le rapport à l'extérieur.
Oui, parce que justement, la relation avec les parents à l'adolescence, c'est normal que les enfants se séparent des parents et commencent effectivement à rester un peu, à chercher leur monde à eux. Donc c'est plutôt, à l'adolescence, c'est la relation avec les autres ados qui est importante. Ils commencent à s'appuyer, ils sortent du groupe familial, ils s'appuient sur le groupe des ados. Et ça, c'est un mouvement normal, nécessaire, pour quitter la famille. Les hikikomori, ils font l'inverse. Ils ne s'appuient pas non plus sur le groupe des ados, sur le groupe des pères. Ils s'enferment en eux-mêmes. Parce que toute relation fait mal. La relation avec les parents, la relation avec les autres jeunes, etc., tout fait mal. C'est comme s'ils étaient devenus allergiques, allergiques aux autres. Et en fait, pour se protéger de cette allergie, ils restent enfermés, en attendant que quelque chose puisse se passer. Ils se protègent, en fait. Alors, c'est une forme de fuite, mais c'est aussi une protection.
Laura nous demande, est-ce que les hikikomori sont malheureux ?
Alors, c'est très difficile à dire parce que, en fait, moi, j'ai le sentiment qu'ils s'anesthésient, ils s'auto-anesthésient. Quand on est anesthésié, on a pas mal. Alors, quand ils commencent à reprendre un petit peu vie, oui, là, effectivement, ils souffrent finalement plus. Et c'est toujours des moments difficiles quand on travaille avec eux.
Voilà, parce qu'ils n'ont pas la force d'être malheureux, en fait.
C'est ça. C'est vrai qu'ils se sont auto-anesthésiés. Hein. Donc, d'une certaine façon, et c'est aussi pour ça, je crois, qu'ils se replient comme ça dans un tout petit espace, c'est pour avoir le moins mal possible. Donc, c'est une question difficile. Ils sont, en tout cas, auto-anesthésiés, un peu apathiques, enfin, très apathiques, et avec vraiment un grand repli à l'intérieur d'eux, comme s'ils se construisaient une grotte et qu'ils restaient dans leur grotte. Alors, de tout temps, il y a eu des ermites. Hein, de tout temps, il y a des gens qui ont eu envie de vivre dans des grottes. Mais c'est très différent de vouloir vivre dans une grotte parce qu'on va développer sa vie intérieure, parce qu'on a un imaginaire très riche, parce qu'on va lire pour des choses comme ça, ou de rester dans sa chambre à ne rien faire. Parce que les hikikomori... et Sophie Carquin le disait tout à l'heure, on leur enlève leur téléphone, on leur enlève leur ordinateur, ils restent enfermés quand même. Hein, et ils font rien.
Ils font rien, enfin ils sont sur les jeux vidéo. Est-ce qu'avec l'arrivée des métaverses, cette version 3.0 des réseaux sociaux avec des mondes virtuels, un peu comme le film de Spielberg, c'est quoi, Game Player One ou quelque chose comme ça ?
Ne me demandez pas quelque chose de récent, là. C'est
pourtant un film à voir. Et on peut redouter donc, qu'il y ait encore plus d'enfants qui s'enferment dans ce monde parallèle, parce que là, ça va vraiment être un monde parallèle.
Oui, je crois que la pression sociale, les angoisses, plus la technologie, c'est l'équation qui crée le repli. Hein, c'est pas les jeux vidéo en tant que tels, c'est pas les métaverses, mais la pression sociale et les angoisses fait qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de fuir dans un autre monde. Si effectivement on leur propose un autre monde dans lequel ils peuvent être justement puissants et forts, alors que dans le monde réel, ils sont impuissants et faibles, évidemment, ils ont envie d'y aller.
Hein. Et du coup, c'est bien, non ? Qu'ils y aillent ?
Ben non, parce que le risque, c'est qu'ils s'y enferment. Ouais, le risque, c'est que dans ce monde imaginaire où ils peuvent se créer un atavar, où ils vont être puissants... Avatar. Où ils vont être puissants et forts, évidemment, ils peuvent y rester. Après, c'est extrêmement difficile de les en sortir, parce que le monde réel, la vraie vie, c'est quoi ? C'est des échecs, c'est des frustrations, c'est des sentiments d'humiliation qu'on doit réussir à surmonter. Si on peut se réfugier dans un monde où on n'a jamais d'échec, pas de sentiments de frustration et pas d'humiliation, évidemment, on est hyper tenté d'y aller. Mais comment on revient après dans la vraie vie ? C'est hyper difficile. Hein.
Alors, Elisa vous demande s'il existe aujourd'hui des psys formés pour accompagner les jeunes hikikomori et leurs familles qui se rendent à domicile, par exemple, puisque, par définition, ils ne sortent pas.
Alors, il commence à y en avoir en France. Il y a des équipes qui, effectivement, se rendent à domicile. Il y a aussi, je crois, beaucoup de psys qui, comme moi, commencent à changer leurs pratiques Évidemment, face à un jeune qui commence à se replier dans sa chambre, on ne va pas lui demander de venir à des rendez-vous.
Vous avez des patients hikikomori ?
Alors, moi, j'ai des patients en phobie scolaire, mais la différence est pour moi très légère parce qu'ils restent enfermés dans leur chambre. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, d'ailleurs, il y a 5 ans, parce que je voyais de plus en plus de jeunes. C'est 5%, 5-6% aujourd'hui, hein, les phobies scolaires, par exemple. Oui. C'est-à-dire des jeunes qui disent oui, « je ne peux plus ». Hein, mon corps, il ne peut pas. J'ai une syncope, je m'évanouis devant les grilles du lycée, etc.
Il y a 30 ans, ce n'était pas ça ?
Non.
Là, c'est vraiment beaucoup plus ?
La différence, vraiment, je crois, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait des rebelles. Il y avait des gens qui disaient « je ne veux pas aller au lycée, je ne veux pas aller au collège, je n'irai pas voilà. ». Mais aujourd'hui, ce n'est pas des rebelles, c'est des gentils. Ils disent « moi, je veux y aller ». Et c'est le corps qui porte les symptômes. C'est le corps qui a une syncope, se met à vomir, etc. Et il y a comme une dissociation entre leur tête qui dit « je veux y aller » et leur corps qui dit « je ne peux pas ». C'est-à-dire qu'ils sont aussi impuissants par rapport à eux-mêmes. Ils n'arrivent même pas à avoir de pouvoir sur eux-mêmes.
Les réseaux sociaux, j'imagine, entretiennent aussi ça.
Oui. Oui, parce que justement, ils peuvent se réfugier dans ce monde virtuel dont on parlait tout à l'heure.
C'est vrai qu'il y a tant de temps, la prise en charge était totalement différente aussi.
Aussi.
C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus dans l'injonction. Tu vas aller à l'école, donc on faisait des dégâts aussi, on écoutait moins l'enfant. C'était comme ça. Puis il n'y avait pas ce refuge avec tous ces écrans à la maison et tout ça. Donc c'était un monde complètement différent. Mais l'enfant, il n'avait pratiquement pas son mot à dire.
Non, mais là, visiblement, ils ont beau essayer de le secouer, de le tirer du lit, ça ne marche pas.
On ne peut pas.
Ah oui, mais...
On peut pas. Non, non, c'est un phénomène assez à la fois ancien et nouveau qui se développe. Moi, je les appelle des canaries. Alors, je termine sur votre question quand même. Donc, il y a de plus en plus de psys qui réagissent autrement, qui acceptent, par exemple, de prendre les jeunes par téléphone 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis on leur demande de venir avec les parents, puis ensuite de venir tout seul. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une espèce d'adaptation comme ça. Et ça, c'est vraiment aussi une bonne évolution des psys aujourd'hui qui ne sont plus dans les cadres précis dans lesquels on était avant et qui on a besoin de toute façon parce qu'il faut bien aider ces familles-là.
Et là aussi, le Covid a permis, avec Doctolib, avec les visios, etc., les rendez-vous psy, ça a facilité la chose.
Absolument. Donc c'est vrai qu'on peut les prendre d'abord au téléphone, pas très longtemps, puis ensuite en visio, puis ensuite ils viennent avec les parents, puis ils viennent tout seuls, enfin voilà. Alors c'est très long, hein. Il faut vraiment s'appuyer sur des petites choses positives et puis ça prend du temps. Mais je pense qu'on peut, pour beaucoup quand même, réussir à trouver le déclic pour que justement ils se sentent plus aussi impuissants. Mais c'est vrai que dans mon livre, moi je les appelle les canaries. Les canaries, c'était les petits oiseaux que les mineurs descendaient avec eux dans les mines, parce que quand il y avait un coup de grisou, les canaries arrêtaient de chanter. Et ils étaient beaucoup plus sensibles que les mineurs, et là les mineurs se disaient « Oh là là, il faut qu'on remonte parce qu'il va y avoir un coup de grisou ». Eh bien, je pense que ces jeunes et le développement de ce phénomène, c'est en train de nous dire, attention, il y a une pression sociale, il y a des angoisses sur les enfants qui font que les plus fragiles aujourd'hui, ils sont en train de craquer. Mais peut-être que si on ne fait rien sur le fond, il va y en avoir de plus en plus, comme au Japon, où quand même, ils sont plus de 700 000 aujourd'hui.
Merci beaucoup Sophie Brown et merci à Sophie d'avoir accepté de raconter cette histoire forte du syndrome de hikikomori. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast. Franchement, on trouve ça trop cool. Trop cool, trop sympa. Donc ce serait cool. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous des bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez, bonne nuit si vous essayez de trouver le sommeil, et puis bon footing si vous nous écoutez en courant. Voilà, dans tous les cas, je vais arrêter de parler, parce que je pense que là, maintenant, il est temps de se taire, monsieur. Voilà, au revoir.